soir. Clôture vendredi dernier à Kolwezi de la troisième conférence minière de la RDC. Outre l'application rigoureuse du code minier révisé, les participants ont aussi recommandé la participation des Congolais au capital social des entreprises minières et la mise en œuvre effective de l'exclusivité de la sous-traitance aux sociétés de droit congolais. Quelle analyse faire des recommandations issues de ce forum? C'est notre thème de ce soir. Et pour en parler, je reçois M. Mabolia Yenga. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordonnateur national du programme d'appui à la bonne gouvernance du secteur minier ProMine, une structure du ministère des Mines. Willy Kalinga. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et directeur général de Géopolis Magazine, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Franck Fouamba, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur et directeur général de la revue Mining News, également cofondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement et aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Il s'est tenu du 12 au 14 septembre à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la troisième édition de la conférence minière de la RDC. Ces assises de trois jours étaient axées sur le cobalt dont Kolwezi possède le plus grand gisement mondial. La rencontre avait regroupé plusieurs acteurs impliqués dans le secteur minier, notamment les opérateurs économiques, la société civile, les ministres provinciaux et nationaux, ainsi que les différents chefs coutumiers. Suivons cet extrait du discours du président Joseph Kabila à l'ouverture de ce forum.
Notre ambition reste à court et à moyen terme, celle de transformer radicalement les visages de désolation observés le long des routes traversées par les convois de produits miniers, de Kolwezi à Kasumbalesa, en passant par Lubumbashi et Likasi, et dans bien d'autres provinces minières à travers tout le pays, en comblant des espérances restées longtemps déçues. J'exige la mise en œuvre effective du nouveau code minier en ce qui concerne les questions inscrites à bon endroit à l'agenda de cette conférence, afin qu'aucun produit minier ne soit exporté à l'état brut. Il est évident que les minerais du Congo ne sauraient continuer abusivement à ne satisfaire que les commodités des investisseurs et du marché mondial. Ils devraient aussi avant tout améliorer les conditions de vie des Congolais et participer à la modernisation du pays.
Voilà, Mapolia Yenga, vous êtes coordonnateur national du programme d'appui à la bonne gouvernance du secteur minier, ProMine, une structure du ministère des Mines. Quelle est l'opportunité d'organiser cette troisième conférence minière de la RDC?
Merci, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité. S'il y a opportunité, remontons rapidement un peu dans le passé. La première a commencé donc en 2013, fut la première conférence qui s'est passée à Lubumbashi. La seconde a été faite à Goma et la troisième actuellement. Le but, c'est d'avoir un état de lieu, de pouvoir faire à chaque fois un état de lieu, les ressources naturelles étant quelque chose d'un don de Dieu pour la RDC, et donc il faut le gérer avec certaine parcimonie. Et les autorités de la République démocratique du Congo ont considéré que chaque année où on peut instaurer un dialogue permanent qui puisse aider à une gestion rationnelle. Et donc la conférence, la troisième, elle s'est tenue juste après que le code et le règlement minier a été publié. Donc la révision du code minier a été faite. Et à un moment où nous sommes dans une période de croissance ou d'effervescence avec les matières premières. Donc c'était vraiment à bon escient de pouvoir parler, échanger, de mesurer comme un baromètre quelle est la température actuelle au niveau des producteurs de nos matières et de l'autre côté toute la population qui est traversée, comme disait tout à l'heure le président, par des camions qui passent tout ça et qui ne perçoivent pas exactement la manne que de ces ressources naturelles.
Alors il y a Ignace Ndala qui nous écrit de Kolwezi qui dit, tout en saluant ces assises, il s'est de rappeler qu'il s'agissait de la troisième conférence, le niveau d'exécution des résolutions précédentes restant peu connu, je crains que les dernières en restent là aussi.
Si vous avez assisté à la réunion, effectivement, il y a eu un rappel, il y a eu une synthèse de toutes les recommandations qui ont été prises. Et le conseiller principal du chef de l'État a plus ou moins fait un état de lieu sur l'application. Il ressort que, bon, je ne me souviens plus, mais il y avait quand même plus de 70% des recommandations qui avaient été soit exécutées ou qui étaient en exécution. Donc alors, il y a eu des statistiques qui ont été produites.
Alors on a suivi le président de la République dans l'extrait tout à l'heure qui a souhaité que le nouveau code minier soit d'application. Certains analystes voient ça comme un aveu d'impuissance.
Pas du tout. Je crois que le discours du ministre des Mines a suivi celle du Premier ministre qui a parlé après le président. Et le ministre a dit, et il a bien dit, que le code minier sera appliqué et doit être appliqué à la lettre. Donc il n'y a pas de question d'aveu d'impuissance. Le code, il est fait. Bon, comme vous savez, il y a des gens qui ne sont pas tellement pour, mais le code doit être appliqué dans toute sa rigueur. Ce n'est aucun problème.
Alors, vous l'avez dit, il y a le président de la République également, il y a des camions, des tonnes et des tonnes de minerais qui traversent des villages où il n'y a ni eau ni électricité. Je crois que le plus grand bénéfice pour les populations qui nous suivent en ce moment, c'est voir leur milieu s'épanouir. Qu'est-ce qui a freiné jusqu'à ce jour cet élan de développement des différentes régions minières?
J'aime à dire qu'il faut d'abord avoir un plan de développement de la République démocratique du Congo. Nous devons avoir le plan. Pour le moment, j'essaie de regarder, ça a été lancé au début de l'année, mais il n'a pas encore été appliqué. L'exploitation minière vient en appui, vient avec ses ressources à travers pour pouvoir mettre en place le plan. Et donc, il faut dès le départ qu'il y ait une bonne entente, parce que ce n'est pas seulement le secteur minier qui pourrait faire développer toutes ces communautés. Il y a aussi l'agriculture, la diversification dont on parle. Et donc, quand on a un plan, on voit les ressources qu'il faut allouer. Et une partie viendrait du secteur minier, mais ça peut aussi venir du secteur forestier ou d'autres. Et qui concourrait à améliorer donc le revenu et le quotidien de toute cette population. Il faut une meilleure répartition. Bien évidemment, le code minier à l'époque, en 2002... L'objectif poursuivi, c'était d'attirer les investisseurs pour faire redémarrer la production minière, ce qui a été fait. Mais bon, on s'est rendu compte qu'elle avait aussi un côté un peu pas néfaste, difficile. C'était évidemment cette répartition qui n'était pas correcte que nous avons essayé maintenant avec le nouveau code minier de plus ou moins de le faire beaucoup plus équitable.
Nous avons suivi dans les différents discours, on a qualifié Kolwezi de capitale mondiale du cobalt, mais après un tel forum, Maboli Ayenga, est-ce que la RDC est prête à faire face aux enjeux économiques, géopolitiques et géostratégiques du marché international du cobalt?
Mais c'est ça dont on parle, dont je disais qu'il faut d'abord, dès le départ, être très bien dans ses bottes. Donc il faut avoir une vision claire. Nous avons ici une manne. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut exactement? Je crois qu'il y a eu des recommandations, telles que par exemple la mise en place d'un think tank qui pourrait mieux élaborer comment est-ce qu'on pourrait capter cette manne. Quand vous regardez l'histoire économique de la gouvernance de nos ressources naturelles, à chaque fois qu'il y a eu des booms du côté du secteur minier, malheureusement, ça a souvent servi à faire fonctionner l'État. Il n'y a pas beaucoup d'argent qui a été mis pour mettre dans l'investissement. Soit l'argent n'est pas assez, ou alors il faut développer d'autres stratégies pour que, comme maintenant, où le cobalt a quand même presque augmenté de manière considérable, une partie soit allouée justement à un projet, à cette vision de développement que j'appelle de tous mes voeux.
Il y a Franklin qui nous écrit de Bukavu qui dit « Le grand problème dans le secteur minier, le trafic d'influence, les sociétés de sous-traitance appartiennent à plusieurs acteurs politiques, ce qui limite le contrôle des services compétents. L'autre problème est la présence dans et autour des carrés miniers, des groupes armés, la porosité de nos frontières qui laisse passage libre à nos minerais sans être étiquetés. Dès lors que la volonté politique de mettre les minerais du Congo au profit des Congolais ne sera pas réelle, les minerais du pays profiteront toujours aux pays propriétaires des sociétés et à quelques individus ici en RDC.
C'est une assez bonne lecture peut-être de la situation, mais bon, encore une fois, comme je vous dis, il faut qu'on puisse aller pas par pas. Le secteur minier ne peut pas tout faire. Dans les zones minières, évidemment, on voit qu'il y a des problèmes de routes, mais c'est qui construit les routes? C'est ni la compagnie minière, ni le ministère des Mines. Donc c'est un autre ministère qui est en charge des infrastructures. Donc le tout doit toujours s'inscrire dans un schéma bien clair où on sait très bien qui sont les acteurs et qui fait quoi et qui doit faire quoi, qui doit rapporter de l'argent. Sinon, évidemment, par exemple, la sous-traitance dont il dit, bon, écoutez, la sous-traitance, c'est une bonne chose, mais c'est la loi qui est là, mais il faut voir maintenant la qualité des personnes qui devront faire cette sous-traitance au niveau des Congolais. Est-ce que nous sommes prêts? Avons-nous cette capacité à pouvoir répondre aux exigences que confère ou que nécessite l'exploitation industrielle normative?
Merci Mabolia Yenga. Willy Kalinga, vous êtes journaliste et directeur général de Géopolis Magazine, un magazine spécialisé dans le domaine des ressources naturelles. Est-ce que pour vous, il était opportun d'organiser cette troisième conférence minière?
C'était plus qu'opportun. Merci d'abord de m'avoir invité. C'était plus qu'opportun parce qu'il faut tenir compte que la révision du code minier que nous avons ardemment souhaité est intervenue après plusieurs années quand même de léthargie. Ça a pris comme 6 ans pour qu'on arrive à mettre en place le nouveau code minier. Et après sa promulgation, il y avait comme une forme de distance entre les différentes parties prenantes à ces secteurs. L'État, la société civile, les exploitants miniers, les communautés locales, chacun avait une opinion divergente quant à la manière de vivre ce nouveau code minier. Comment faire pour que les différentes parties prenantes puissent trouver une synergie? C'est la première occasion, je crois, après la promulgation du code minier et du règlement minier, la première occasion où les différents acteurs sont face à face. Et c'était très très important que cette conférence puisse s'organiser pour que chaque partie puisse faire sa lecture. Afin que, d'ailleurs, c'est ça même qui a été le thème. Quel est l'apport de chaque partie dans la mise en œuvre de ce nouveau code et de ce secteur? C'est donc important pour moi, et pour d'ailleurs la République, qu'il y ait une lecture concertée de l'enjeu, afin que chacun puisse prendre ses responsabilités.
Alors, on a suivi le ministre des Mines dans son discours qui a évoqué plusieurs difficultés qui rongent le secteur minier en RDC. C'est entre autres la persistance de l'exploitation minière par des personnes non autorisées, particulièrement à l'est du pays, l'existence d'une contrebande ainsi que l'engouement de la jeunesse congolaise désœuvrée vers l'exploitation artisanale. Tout ça, comme je disais à Mabolia Yenga, ça sent un peu un aveu d'échec, un aveu d'impuissance de la part de venant d'une autorité.
Vous savez, c'est un secteur sensible. Il faut de la responsabilité, il faut de la précision dans l'approche. Et par rapport à l'exploitation artisanale, moi je suis de ceux qui estiment qu'il faut se décider d'industrialiser, qu'il faut cesser la production artisanale. En fin de compte, elle ne sert à personne. Ceux qui travaillent, ceux qui sont les creuseurs, ne gagnent pas assez. Et les propriétaires sont obligés de travailler dans l'illégalité pour pouvoir transférer ce qu'ils exploitent au pays vers l'extérieur. Je pense que pour que la sécurité revienne dans les zones, il faut que des investisseurs sérieux puissent prendre ces concessions et fabriquent des usines afin d'exploiter. Je prends le cas, par exemple, de Twangiza, par exemple, avec Banro, c'est au sud Kivu. Vous n'entendez pas parler des groupes armés là-bas. Depuis que la mine s'est installée, ça s'est calmé. Évidemment, il y a un amour un peu vers le maniement où on a encore les maïmaï qui viennent prendre en otage des travailleurs. Mais l'exploitation artisanale est une des sources majeures de l'insécurité à l'est du pays. Est-ce que le gouvernement s'est approché de cette question de manière pertinente? Je pense qu'il y a des tentatives. Mais c'est comme on a dit tout à l'heure, M. Mabolia, c'est une question de groupe, une question de gouvernemental, de synergie. Il faut une collaboration entre l'armée, entre les ministères de l'Intérieur, entre les forces de sécurité, mais surtout aussi les communautés locales pour que l'on puisse avoir une approche concertée de cette question de l'insécurité.
Alors, parmi les défis qui guettent le secteur minier en RDC, il y a celui des infrastructures routières dans les provinces productrices des minerais. Il y a également le déficit énergétique. Visiblement, la RDC ne se dote pas encore des moyens à la mesure de ses ambitions.
Vous savez, nous devons lire très bien le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui. On parle du cobalt, le cobalt qui augmente des prix. Le cobalt a toujours été au Congo. Avec la Gécamine, il y avait toujours du cobalt. Mais pourquoi subitement on en a besoin? Vous connaissez les raisons, c'est parce que nous connaissons une révolution énergétique et une révolution numérique. Dans les années qui viennent, on est à la recherche des métaux rares qui peuvent, par des petites quantités, produire une très grande énergie. C'est comme ça que l'on cherche le cobalt et d'autres métaux rares. On cherche le cobalt parce que l'on va fabriquer la pile électrique, qui va en fait permettre à ce que l'on ait des voitures électriques qui ne soient pas polluantes. Tout cela fait partie des enjeux pour lesquels il faudrait que le pays puisse se doter des instruments de cette exploitation. Alors, dans les zones où il y a ces minerais, quel est le plan? M. Mabole l'a dit tout à l'heure et je suis d'accord avec lui. Les miniers viennent pour exploiter les ressources et payent les taxes à l'État et s'en vont. Il est vrai qu'ils ont une responsabilité sociétale et doivent développer les endroits où ils exploitent. Mais ils ne peuvent pas les développer s'il n'y a pas un plan général qui tienne compte des infrastructures et de la synergie entre les différentes communautés. Ce plan manque. Je crois que j'ai entendu qu'au ministère du plan, on était en train de valider, parce qu'il y avait déjà un plan qui avait commencé, mais qui n'a pas encore été approuvé. On est en train de valider les dernières retouches pour que nous ayons un plan général. Sinon, nous allons toujours avoir des opérateurs qui viennent, qui prennent, qui laissent des trous et qui s'en vont.
Alors, je reviens à la préoccupation d'Isaac, de Franklin de Bukavu, que j'ai lu à M. Mabolia, qui pense que le secteur minier est miné par le trafic d'influence. C'est un secteur où certaines autorités ont la main mise et deviennent pratiquement un blocage pour le développement.
Je ne sais pas dans quelle proportion une telle affirmation est exacte, parce qu'aujourd'hui, le secteur minier, c'est quoi? C'est un permis d'exploration. Ce sont des sociétés qui sont connues. Après l'exploration, il y a l'exploitation. Vous avez une usine, vous avez une mine, vous travaillez et chaque mois, vous payez ou chaque année, vous payez vos redevances. Il est vrai que là où les autorités mettent la main, ou là où, je crois que c'est souvent dans les marchés de sous-traitance, là où il y a, à part l'exploitation illégale, hein, mais c'est aussi dans la sous-traitance, parce qu'à partir du moment où vous avez une mine qui est installée, elle a besoin donc des sous-traitants, et comment se font les marchés des sous-traitants? Peut-être là où il a raison.
Je reviens à vous tout à l'heure, Willy Kalingaï. Franck Fouamba, vous êtes fondateur et directeur général de la revue Mining News et cofondateur de l'ONG Ressources Naturelles pour le Développement et aussi coordonnateur de la campagne Touche pas à mon cobalt. Pour vous, quelle était l'opportunité de ce forum?
Merci de m'avoir invité. En principe, comme on dit mes prédécesseurs qui ont parlé, il fallait fixer l'opinion. Je suis journaliste et aussi beaucoup plus du monde associatif. Nous attendions un message fort du gouvernement, surtout sur l'applicabilité du code minier, pendant qu'il y a des sociétés minières, celle-là qu'on appelait le G7 minier, qui voulait qu'on révise une loi à cause de leurs exigences. Nous attendions un message clair. Et deuxièmement, pour la campagne Touche pas mon cobalt, on attendait aussi un message clair du gouvernement qui nous dise ce qu'il pensait du cobalt et que nous fassions aussi passer notre message qui concerne non seulement le cobalt, mais aussi d'autres minéraux. Il y a M. Mabolia a évoqué la proposition d'un think tank. Effectivement, M. Mopepele lui proposait la cellule stratégique au ministère de Mines, mais nous, nous avons vu plus loin au niveau de la campagne. Parce que comme M. Mabolia disait, nous n'avons pas que le cobalt ou les ressources minérales qui posent des problèmes et qui sont très recherchées aujourd'hui. Il y a le problème de l'eau qui est recherchée vers le lac Tchad, nous avons le problème de la forêt, une des grandes du monde, qui est en train d'être recherché ou qui apporte quelque chose à la stabilisation du climat. Nous avons les terres arables qui sont très enviées aujourd'hui par les Asiatiques, dont les Chinois et les Indiens. Alors, au niveau de la campagne Touche pas mon cobalt et de la société civile, nous avons proposé plutôt un institut national des ressources naturelles qui penserait et qui planifierait. Parce que ce que Paul Mabouré a dit et ce que Willy venait de dire, vous comprendrez qu'il manque un plan préconçu qui doit être appliqué. À titre d'exemple, le Premier ministre nous dit que d'ici le 30 octobre, il va publier la liste des minéraux stratégiques. Un mois. Ça prend un mois après la conférence. Ou 45 jours. Alors que nous savons que les États-Unis ou l'Union européenne réunis ont pris au moins 2 ans pour travailler sur leur liste de minéraux stratégiques. Le cobalt aujourd'hui n'est pas stratégique, il ne doit pas être stratégique parce qu'il est très recherché par le monde ou parce que les prix ont augmenté et qu'on veut capter beaucoup de royalties. Le gouvernement devait réfléchir pour faire découvrir que le cobalt est important parce que la RDC en réserve les grandes, oui, en contient les grandes réserves au monde et que ce minéré, non seulement à cause du marché qui est monté aujourd'hui et de sa recherche, c'est un minéré très important depuis des années et nous en avons des gisements de réserves et il pourra encore plus être plus important. Parce qu'aujourd'hui, le problème du cobalt se pose. Mais ceux qui recherchent le cobalt aujourd'hui pour les piles, ils ne veulent pas dépendre de la RDC. C'est ainsi qu'ils sont déjà en train de chercher des alternatives, dont le lithium, le manganèse et le nickel. La RDC en a. Donc, pour nous, ça a été bon, du fait que nous avons compris le message, aussi le message sur la sous-traitance, parce que nous pouvons, au niveau de Touche pas mon cobalt, nous sommes disciples de la discrimination positive, telle qu'elle se fait en Afrique du Sud, où il y a parlé. Comment cela est de se peut capter de l'argent pendant qu'il y a l'embellie des coups de métro, même s'il n'y a pas l'embellie.
Franck Fomba.
C'est normal.
Franck, en ce qui concerne les recommandations, oui. Si on doit parler de la sous-traitance, pour le répéter, il a été soutenu la mise en œuvre effective de l'exclusivité de la sous-traitance aux sociétés de droit congolais. Mais M. Mabolia a posé une question très importante. Nous, Congolais, sommes-nous prêts? Avons-nous les compétences et les infrastructures qui vont avec?
Très bonne question. C'est là que je réponds par deux volets. Il y a des Congolais dans le secteur des mines aujourd'hui qui ont démontré qu'ils ont des capacités. Il y a des sociétés qui ont démontré et qui sont même certifiées au niveau international. On a un laboratoire, le meilleur, le premier, le privé, à être reconnu au niveau mondial. Il est congolais, capitaux congolais, tenu par les Congolais. Deuxième volet, au niveau de la campagne Touche pas mon cobalt et au niveau de la société civile, Nous demandons qu'il y ait un état des lieux, qu'il y ait un forum, un atelier sur la sous-traitance où il y aura le gouvernement, il y aura les entreprises, il y aura la société civile et les représentants des communautés, où nous allons faire l'état des lieux. Savoir d'abord la sous-traitance, ce qu'il a fait aujourd'hui, combien d'argent part dans la sous-traitance, quelles sont les demandes des miniers, quelles sont les capacités d'actuels sous-traitants congolais et comment est-ce qu'il faut renforcer les capacités et comment s'y prendre. Une autre question, plutôt une autre réponse pour compléter pour Mabolia. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, des gens comme des Chinois sont en train de se préparer pour mettre dans le Katanga ce qu'on appelle les consignment stocks. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre des entrepôts, de façon que si une mine commande une pièce, que ça ne prenne pas 2 heures, qu'on livre par exemple à une mine dans 30 minutes. Ce sont des problèmes que nous devions traiter au courant de l'atelier ou du forum sur la sous-traitance qui serait un état des lieux. Parce qu'aujourd'hui, confrères, quand vous prenez la loi sur la sous-traitance, elle est vague, elle ne favorise pas les Congolais.
Franck.
Elle est exclusive. Mais quand vous lisez bien la loi, elle ne favorise pas les Congolais. Et les mesures d'application prises par le Premier ministre, mais c'est un vide.
Franck Fomba.
C'est une confusion. Il n'y a rien.
Franck Fomba, qu'est-ce qui fait que la participation des Congolais au capital social des entreprises minières soit si faible, très brièvement?
Écoutez, il n'y a pas de banque d'investissement au Congo. C'est bon, c'est bien dit. C'est bien que l'État ou le gouvernement veut que les Congolais participent. Où est-ce qu'ils vont aller lever les fonds? Qui fait confiance aux Congolais? Quelle banque quelle banque nationale, quelle banque appartenant à l'État
Merci.
Peut octroyer de l'argent à un Congolais pour le... Parce qu'il ne faut pas dans un capital. Vous
Merci.
N'allez pas seulement parce que vous êtes Congolais.
Merci.
Vous allez apporter quelque chose.
Merci. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Paul Mabolia. Yenga, il y a pour vous cette réaction qui nous vient du Maniema.
Somali David est mon satire depuis la province du Maniema. Ces recommandations ne sont que vaines car ils sont concentrés au profit d'un groupe d'individus. D'autant plus que le gouvernement est en train de planter des sociétés de pays étrangers dans les carrières minières qui n'apportent rien comme profit au pays ou au peuple congolais. La population a besoin d'exploiter elle-même ses minéraux pour sa survie, mais elle est coincée et n'arrive pas à exploiter ses propres minéraux, ce qui amène des troubles dans certaines régions. S'il faut faire des recommandations, il faut aussi de même respecter l'état des droit au profit du pays et de sa population.
Monsieur Mabolia, qu'est-ce que vous répondez à Soumaïli?
Je vais coupler avec la réflexion de Willy tantôt qui a parlé de l'exploitation artisanale qui était source majeure de difficultés et de conflits. L'exploitation minière demande beaucoup de capitaux. Donc quand il fait référence à ces commentaires que ça ne profite pas. Il faut que quelqu'un amène l'argent. Et bien souvent, si c'est une grande exploitation, on parle en termes de milliards. Mais au Congo, il existe aussi des petites mines, des petites exploitations qui nécessitent pas beaucoup de capitaux pour lesquels on pourrait s'organiser et on essaye d'organiser justement avec les coopératives pour qu'elles puissent être exploitées. Donc quand c'est de grands capitaux, ce n'est pas l'affaire maintenant, comme on dit, des autorités ou quoi que ce soit. Je crois que le processus, il est assez bien où il est. On va au cadastre minier, c'est assez clair. Dans les petites activités, bon, nous avons souvent des problèmes, nous ici à Kinshasa, de savoir exactement ce qui se passe dans le fin fond de ce grand continent. Mais les activités doivent être, concentrées et réfléchies. S'il dit que là-bas, il ne se passe rien, mais on peut se mettre en coopérative, mieux contrôler l'exploitation à caractère moyenne taille qui se trouve là-bas. Donc, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Je n'ai pas envie de commencer.
Et donc, aujourd'hui, on peut faire cohabiter l'artisanat minier et l'exploitation minière industrielle, par exemple.
Écoutez, l'exploitation artisanale, ce sont des individus. Ce sont des Congolais. Ils ne sont pas deux. Ils sont des millions. Il faut quand même tenir compte que ce sont quand même des agents économiques. Là où ils sont là, c'est une question de survie pour eux. Ce n'est pas une question qu'ils le font par obligation. C'est une survie. Il y a la matière qui est là, on gratte un peu, on a un gramme. Ça peut aider à sauver l'enfant qui a la malaria en tentant d'avoir un emploi comme Willy descend des compagnies minières. Donc il faut arriver à concilier ces deux exigences. D'un côté, les compagnies industrielles qui mettent du temps et la situation des gens qui sont sur le terrain, qui ont besoin de vivre. Et souvent, c'est une manière. Quand vous allez à l'intérieur, vous avez des femmes qui sont laveuses, vous avez des transporteurs. C'est toute une économie qui existe. Et ces gens ont de l'argent pour lequel ils achètent des produits pharmaceutiques, ils mettent les enfants à l'école. Donc il ne faut pas négliger ça d'un revers de la main comme ça. Il faut plutôt concilier ces deux positions. Sinon, vous aurez toujours des problèmes de conflits parce qu'ils n'ont rien à faire. Hein. Vous voyez le problème démographique à l'intérieur du pays, enfin en général chez nous en Afrique, c'est beaucoup de monde qui doivent travailler.
Et il faut le formaliser.
Il faut le formaliser. Le ministère des Mines a pris le problème à bas le corps. On a commencé par changer la notion même de l'exploitant artisanal dans le cadre du code minier actuel où on le définit maintenant à travers une coopérative. C'est pour mieux les contrôler et mieux les organiser. Donc c'est un programme, ce sont des techniques qui sont mises en place pour justement les opérationnaliser de manière à éviter ou à diminuer leur pénibilité dans leur travail. Mais ce sont des agents économiques.
Hein. Quant à la participation des Congolais au capital social des entreprises minières, Franck Fouamba a relevé un élément pertinent. Quelle est cette banque qui fait encore confiance aux Congolais aujourd'hui pour leur prêter de l'argent?
Le code minier a quand même revu la façon dont ce problème de capital social. Je crois que maintenant, 10% doivent être réservés aux individus congolais, outre les 10 autres pourcents maintenant qui sont prévus dans le cadre de la loi à l'État congolais. Donc ça fait déjà au moins 20% qui soient. Maintenant, c'est à nous à nous organiser. Et je crois que dans le chef de l'exigence du président de la République, il a appelé de tous ses voeux à mettre en place une bourse des matières premières. Mais c'est un peu la même chose. L'ingénierie financière en RDC doit évoluer parce qu'on a présent qu'on a une, une économie de comptabilité, une économie caisse, à passer dans une économie où il y a une bourse de matière immobilière avec tous les instruments qui peuvent se faire. Et n'oubliez pas le fonds minier qui est mis en place et qui peut aussi aider à booster l'économie.
Willy Kalinga, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au Sud Kivu.
Maître Zozo Sakali, depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Je pense pour ma part que la tenue de la troisième conférence minière tenue à Kolwezi serait une opportunité et une nécessité pour la population congolaise, vu que l'exploitation des ressources minières en RDC est un défi car ces produits qui sont transfrontaliers nécessitent une attention particulière de toutes les provinces. D'autant plus que des guerres, des conflits et autres crises que connaît l'Est de la République démocratique du Congo trouvent souvent origine dans ces phénomènes. D'où il faudrait non seulement harmoniser les cadres juridiques, c'est-à-dire les lois en la matière, mais aussi et surtout travailler sur la volonté politique des animateurs ou des acteurs politiques afin de bannir l'exploitation illicite et illégale qui se manifeste dans ces secteurs.
J'ajoute cette réaction d'Eli Monet dit Ekpemu de, qui nous écrit de Mbandaka. La RDC parmi les pays qui possèdent des meilleurs textes et des bonnes recommandations susceptibles de booster le pays vers le développement en moins d'une année. Mais le problème de la RDC est celui d'hommes d'État capables de traduire toutes ces recommandations en politique publique réelle et concrète. Willy Kalingai.
Évidemment, ils ont raison. Nous sommes à la croisée de chemin. Soit nous devenons un pays efficace, un État efficace, capable de réagir aux exigences de notre moment, soit nous continuons à être un pays des rentes, alors nous nous contentons simplement d'avoir un droit de propriété sur des minéraux que nous ne transformons pas. Ils ont raison. Ils ont raison parce que aujourd'hui, avec ce que nous avons vécu au Katanga, nous avons compris qu'il y a une exigence d'efficacité. L'État fait des lois, les opérateurs viennent, mais les Congolais doivent s'organiser dans l'entrepreneuriat. Le moment est venu pour que le Congolais accède effectivement avec efficacité à l'action d'entreprises. C'est les entreprises qui vont transformer ce pays dans tous les secteurs. Aujourd'hui, avec la loi sur la sous-traitance, c'est une occasion. Mais il faut que nous mutualisons nos efforts. La deuxième chose, il a parlé tout à l'heure des ressources transfrontalières. C'est vrai, aujourd'hui, il y en a quelques-unes, notamment par exemple dans les lacs Kivu, avec le gaz, vous avez avec le Rwanda, vous avez
le gaz méthane,
vous avez ce que nous avec l'Ouganda, vous avez le pétrole dans le lac Albert, vous avez à la frontière avec l'Angola, dans une rivière à peu près, avec le diamant. Donc dans les différents pays qui nous environnent, nous avons effectivement des accords de dinitisation, c'est-à-dire la capacité de travailler en commun et de mettre en place des sociétés communes pour exploiter des gisements communs. Mais ici, je voudrais simplement souligner une chose, et ce serait bien quand même de le dire, en revenant sur l'artisanat, j'ai appris, c'est à Kolwezi, que la Banque africaine de développement a mis en place un fonds de 84 millions de dollars, un fonds qui va être destiné à la réorientation des jeunes qui travaillent dans les mines. Parce que vous savez, l'exploitation minière pour les enfants reste quand même une activité dangereuse. Les mines, il y a quand même des matières sensibles, des matières dangereuses, il y a toxiques. Et j'ai vu, par exemple, moi, je suis allé à Kolwezi, c'est une ville où je suis né. La maison dans laquelle moi je suis né est déjà devenue une carrière. Une carrière, pourquoi ? Parce que le travail d'exploitation artisanale a atteint des proportions incommensurables. Des enfants de l'école primaire partent à l'école le matin et le soir ou l'après-midi, ils ont des sacs de minerais sur les têtes pour aller vendre. C'est dangereux. Et quand j'ai entendu qu'il y avait 84 millions de dollars pour permettre à ces enfants de quitter l'exploitation minière, d'aller vers des activités notamment comme l'agriculture, moi, c'est une bonne chose. Je reste convaincu, malgré la générosité tout à l'heure humaine, la solidarité humaine de M. Mabolia, qui voulait que des millions de Congolais puissent trouver leur survie dans l'exploitation artisanale, mais je reste convaincu que sur le long terme, C'est une activité dangereuse qui ne pourra jamais faire développer le pays. Il faut des sociétés, il faut de la sécurité, et ceci est important si nous travaillons en collaboration les uns des autres.
Alors, vous avez évoqué dans votre précédente intervention la question de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. On a l'impression à ce niveau que le gouvernement a certaines hésitations pour prendre cette question à bras le corps, ainsi que la société civile d'ailleurs.
Évidemment, aujourd'hui, plusieurs entreprises, vous savez, je comprends par exemple la nervosité des gros miniers qui travaillent dans la clarté, dans la transparence, et qui paient les impôts et qui essaient de trouver un investissement, mais ils voient à côté d'eux ce que moi j'appelle des prédateurs. Il y a énormément des mines clandestines, des sociétés écrans, des personnes qui ne payent même pas le salaire minimum aux travailleurs. Il y a pratiquement des mines qui sont devenues aujourd'hui des zones d'esclavage. C'est cela qu'il faut démanteler. Il faut vraiment les démanteler et aller jusqu'au bout.
Merci. Franck Fouamba, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de Kolwezi.
Toujours comme il dit, roi à Kolwezi de la province de Lualaba. D'abord, avoir le nombre de participants. Les délégations venues de toutes les provinces, nous avons assisté à une promenade qu'à une conférence réellement scientifique et surtout économique. Car ça ne devrait que concerner uniquement les experts à la matière, les miniers et quelques ministères concernés comme celui des mines et industries, du plan et de l'économie. Les autres, là, je ne sais pas ce qu'ils sont venus faire au Lualaba, car on devrait limiter et bien spécifier les participants pour capitaliser certaines dépenses qui ne devraient même pas être engagées. Et les allouer même à la réhabilitation des routes qui vont directement dans ces entreprises minières ou même à la construction de bonnes structures sanitaires et de bonnes écoles dans les milieux où sont basées ces entreprises, comme à Lulu, à Fungurume, à Kamo et j'en passe, parce qu'en réalité, la population de ces milieux semble être abandonnée à la fois par ces entreprises et par le gouvernement qui ne voit que sa part.
Franck, comment vous percevez cette frustration exprimée par Chuck Muigirwa?
Écoutez, bon, il a totalement raison, hein, il a totalement raison. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de gens plus que prévu et beaucoup de gens inutiles. Ça s'adresse pour la participation. Et les deux, c'était pas tellement bien organisé parce que les panels n'avaient rien de panel. C'était juste des expositions. Alors que personnellement, je m'attendais à des expositions suivies des échanges avec les participants dans une sorte de questions-réponses. Donc c'est une frustration normale et je pense que les organisateurs vont en tenir compte prochainement. Je voulais placer un mot sur ce que Willy venait de dire à propos de l'artisanat. Je ne partage pas son point de vue sur l'artisanat parce que l'artisanat n'est pas seulement à l'RDC et l'artisanat n'existe pas aujourd'hui. Pendant que nous étions en Kolwezi, il y a eu une grande conférence qui s'est tenue à Livingstone, où il y avait le monde entier, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, où on était en train de réfléchir sur l'artisanat. Je pense que les frustrations des amis de l'EF sont compréhensibles. Et au niveau de la société civile, on joue un grand rôle. On joue un grand rôle de façon que si l'artisanat est aujourd'hui formalisé dans le code minier, c'est parce qu'il y a la société civile, les ONG qui sont intervenues. Et Willy a parlé des sociétés minières, toutes les sociétés minières dont vous avez parlé. Mettons peut-être le groupe Ivanhoé à côté, peut-être ses parents de bord. Mais les autres ici sont des sociétés qui travaillent depuis des années au bilan négatif. Des sociétés qui ont travaillé pendant 10 ans, 15 ans, des bilans négatifs. En principe, ce ne sont pas des sociétés qui travaillent dans la transparence. Ça, c'est le point de vue de Touche pas mon combat et c'est le point de vue de la société civile. Nous avons voulu pour nous que les responsabilités sociétales des entreprises soient bien mutualisées et ce soit gérées en impliquant les communautés. Allez comprendre qu'on fait qu'il y a des sociétés, une société qui dit avoir dépensé 10 millions de dollars à puiser des puits d'eau. Une société qui dit dans une ville. Et quand vous allez sur cette ville-là, vous trouvez 15-20 puits. Ça veut dire qu'un puits a coûté à peu près 200 000 dollars. Ce sont des choses, nous qui vivons au Katanga, au quotidien, nous disons les choses doivent être revues. Les choses doivent être revues. Et c'est ainsi que nous avons dit. Nous ne voulons pas que ça soit fait de là à peu près. Faisons des ateliers sous la sous-traitance, faisons des ateliers sous les responsabilités sociétales, réfléchissons et trouvons des solutions. Parce que ce qui se passe chez nous aujourd'hui, c'est un tournant que nous risquons d'échouer si on ne tient pas compte des autres. Vous avez vu la loi sur la sous-traitance, elle est vide. Je me demande comment les Congolais vont s'y retrouver. Les besoins d'application vides. La société civile à laquelle je fais partie est demande qu'on puisse revoir les mesures d'application. Qui est un atelier? Comme ça, on va les voir.
Franck Fouamba.
Sinon, Oui, en fait.
En ce moment où le cobalt connaît une certaine embellie, ne faudrait-il pas déjà commencer à réfléchir sur, par exemple, l'agriculture comme solution alternative pendant et l'après-mine?
Non. L'agriculture ne peut pas être une alternative. L'agriculture est une priorité des priorités. Un pays ne peut pas se développer sans l'agriculture. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas travailler, on ne peut pas étudier, on peut faire n'importe quoi sans l'agriculture. On doit manger. Et aujourd'hui, comme au Katanga, dans la partie du Katanga, à part le charbon, le feu du charbon et l'eau de la régie des eaux, tout ce que nous consommons est étranger. C'est anormal. Trop d'argent qui part. Et pourtant, nous avons des terres arables. C'est au niveau de tout ce qu'on combat. Nous préconisons l'agriculture, non pas comme une alternative, mais nous demandons que ça soit fait une priorité. Parce que, selon les industriels, les fermiers industriels que nous avons, les amis que nous avons au Katanga, par hectare, on s'est employé entre 3 et 6 personnes. Un hectare cultivé industriellement. Vous allez comprendre que si on fait 100 000 hectares de maïs, de manioc, etc., on aura résolvé, par exemple, tout ce qui est comme trésor artisanaux aujourd'hui. Donc les problèmes ne se poseraient pas avec tout ce que les gens veulent faire sur la traçabilité de cobalt et les autres. Donc nous disons, nous soutenons ce que vous dites, que l'agriculture, et le chef de l'État l'a dit, les intervenants l'ont dit, qu'on doit développer l'agriculture. Mais nous disons que ça ne soit pas une alternative.
Mais que ce soit la priorité des priorités. Merci Franck, je reviens à vous pour la conclusion. Paul Mabolia, il faut déjà conclure, mais il y a Dido Loate, cet internaute qui dit, pour que ces recommandations soient un succès, il faut 1. Créer un climat des affaires propice, bannir la corruption et l'insécurité, 2. Augmenter la capacité énergétique du pays, 3. Désenclaver le pays par des infrastructures routières et ferroviaires adéquates. En guise de conclusion.
En guise de conclusion, il reprend ici dans plus ou moins les axes prioritaires que le ministre des Mines a définis lors de la conférence. Donc il y avait l'amélioration du cadre législatif, il y avait la formalisation du secteur minier, il fallait décriminaliser le secteur minier et faire la rupture entre l'exploitation des groupes armés et l'exploitation artisanale saine, il fallait assainir le cadastre minier, la lutte contre la fraude, la promotion d'une industrie locale de transformation, la mise en œuvre des normes, règles et principes. Nous sommes dans l'ITIE, nous sommes dans la CIRGL, dans tellement de conférences pour améliorer la transparence. Et il y a le grand chantier du ministère des Mines actuellement qui est la réforme de l'administration des mines, la lutte contre l'évasion fiscale. Il ne faut pas souvent oublier que quand vous demandez à l'État de faire quelque chose, par exemple le secteur minier, il faut le doter de moyens. En 2015, par exemple, le ministère des Mines n'a fonctionné qu'avec 6 millions de dollars. Pour tout un pays comme le nôtre, le budget du ministère des Mines n'était que de 6 millions. Alors comment voulez-vous que les agents et les fonctionnaires puissent se déplacer, tout ça? C'est comme ça que j'appelle encore une fois de tous mes voeux un plan stratégique national où tous les éléments seront pris en compte et chacun sait exactement ce qu'il doit faire dans ce plan.
Merci. Willy Kalingay, en guise de conclusion, bon, vous avez suivi Paul Mabolia, le gouvernement donne 6 millions au ministère des Mines qui a besoin de beaucoup plus d'argent pour aller à la hauteur de ses ambitions.
Les ressources naturelles sont épuisables. Un jour, les cobalt s'épuiseront. Mais le Congo doit continuer à vivre. C'est ainsi que moi je préconise que dans l'exploitation des ressources naturelles, nous pensions urgemment à créer un fonds souverain. Le fonds souverain va permettre à ce que le pays tire de ses ressources naturelles des moyens d'économiser. Parce que nous faisons la mutation. Si vous avez exploité les cobalt et qu'il n'y en a plus, il faut qu'il y ait des moyens qui représentent la valeur qu'avait le cobalt dans les sous-sols. Les pays organisés créent les fonds souverains parce que ce que nous exploitons aujourd'hui, nous le faisons aussi pour les générations futures.
Merci. Franck Fouamba, quelle est votre conclusion?
À propos du cobalt, notre position pour notre campagne, touchant mon cobalt, c'est que la RDC, nous lui avons demandé de former un quartier de cobalt parce que la RDC doit contrôler le cobalt. Contrôler le cobalt afin de peser sur les prix de cobalt, contrôler la production. L'année passée, on était autour de 86 000 tonnes pour toute l'année et aujourd'hui, juste pour le premier semestre, on a déjà dépassé les 86 000 tonnes. On veut casser les prix et comme Willy veut dire, on ne doit pas vivre, on ne doit pas se leurrer que le cobalt est éternel. Les diamants n'ont pas été éternels. La deuxième chose...
Et la dernière?
La sous-traitance. Oui, la deuxième chose, la dernière, c'est que nous voulons qu'on applique la loi sur la sous-traitance et... Et l'État ne viole pas la loi en nous amenant des étrangers qui viennent passer le combat parce que la sous-traitance dans le secteur.
Merci Franck Fomba, c'est par vous que nous terminons cette émission. Réalisation Guy Maté, mise en onde Polydor Basunga, supervision Pelekipe Lamondo, présentation et coordination Alain Rung Mouchinj. Merci de votre attention. Au revoir.